Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, un média web féminin que j'ai lancé en 2005 et revendu et quitté durant l'été 2020 après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de trois autres podcasts, Histoire de Daron où j'interviewe des pères sur leur paternité, Histoire de Mec où je fais parler des mecs, de masculinité et un dernier intitulé La reco de FabFlo qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Cette semaine, je reçois Alain Damasio dans une interview à la fois géniale et un poil frustrante, puisque j'ai réussi à avoir l'un des meilleurs auteurs de science-fiction en France lors de sa venue en promo, mais uniquement pour une petite heure en sa compagnie. Damasio mériterait à lui seul un épisode de 4 heures, mais c'est pas bien grave, on se refera sans doute un épisode 2 la prochaine fois qu'il viendra. Si vous ne connaissez pas Alain Damasio, il est l'auteur de livres de science-fiction qui ont à la fois gagné le cœur des critiques, mais aussi du public, puisque ces trois bouquins qu'il a écrits en 15 années, La Zone du Dehors, La Horde du Contrevent et Les Furtifs, ont été vendus à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. C'est une interview un peu exclusive que je vous propose ici, puisqu'il est très rare qu'on l'interroge sur son histoire lors de ses apparitions médiatiques. On retrace donc ensemble son parcours, depuis sa petite enfance, marquée par le divorce de ses parents à l'âge de 13 ans, jusqu'à la sortie des Furtifs, en passant par la galère de l'écriture de La Horde du Contrevent, qui est toute une histoire ce bouquin. On discute aussi du parcours qui l'amènera à faire une prépa HEC, et puis de finir à l'ESSEC et de la colère que cette école provoquera en lui, colère qu'il canalisera dans l'écriture, à sa grande surprise. On parle aussi de Deleuze, de Nietzsche et de Spinoza, ces penseurs qui ont structuré la vision du monde d'Alain Damasio, de l'aspect jusqu'au boutiste de sa personnalité et de plein plein d'autres sujets. Enfin, on a toute une partie de l'interview où je voulais le faire parler de paternité, rapport à mon podcast Histoire de Daron, et surtout du rapport de ses filles aux écrans, puisque les smartphones sont le sujet de son nouveau bouquin, qui est une nouvelle qui s'appelle Scarlett et Novak, qui sort chez Rajo ces jours-ci. J'espère que l'interview vous plaira. Si oui, prenez deux minutes pour mettre une bonne note sur votre appli de podcast préféré et un cool commentaire. Ça aide le podcast à gagner en visibilité. Un grand merci à vous et je vous laisse en compagnie d'Alain Damasio. Comment ça va ?
Eh ben, écoute, ça va aujourd'hui. Je suis au soleil. C'est presque Paris, presque beau, donc ça fait du bien.
Ouais. Je t'attrape en plein milieu de ta journée de promo folle.
Ouais, carrément.
J'espère qu'on va on va faire ensemble un pardon je t'ai coupé tu voulais
non mais ils sont malades, ils m'ont mis 10 créneaux une seule journée, mais voilà, j'essaie de couper, de me reposer, de me relancer.
Tu sors d'une sieste, ça me fait plaisir de
ouais,
t'avoir donc à peu près plein point
frais. J'ai pas réussi en fait hein, mais ouais, j'ai fait sieste kebab, j'ai enchaîné mais Vélib, sieste kebab Vélib, mais ça non, j'arrive, ça va, je suis en forme, c'est ça.
Oh, c'est cool. Alain, on est ici pour parler de ton histoire. J'ai vu que tu avais assez peu fait de cet exercice-là, en fait, d'une manière générale, dans les médias, et je suis très content qu'on puisse le faire ensemble. La première question que je pose à tous mes invités, c'est que, en général, on repart à la petite enfance. Et c'est à quoi tu ressemblais, Alain, quand tu avais 7-8 ans?
7-8 ans, je pense que j'étais, je pense que j'ai eu une belle enfance jusqu'à 10 ans, en réalité. J'étais le troisième, moi, de ma famille. J'avais une grande sœur et un grand frère. Enfin, ma grande sœur est 50 plus, mon frère a 2 ans. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup joué avec mon frère. Et, ouais, j'ai le souvenir de beaucoup de jeux. J'ai le souvenir d'avoir aucune pression. Et j'étais le troisième, donc j'avais ce côté où on me laissait pousser tout seul. J'avais pas du tout la pression. Enfin, la pression parentale était quand même beaucoup moins forte, même si mon père était vraiment un patriarche, quoi. Donc, il imposait une sorte de main de fer sur la famille, mais pas méchamment, mais c'était, voilà, c'était une logique très, comme à l'époque, quoi, très, assez machiste, quoi, faut dire ce qui est. Donc, jusqu'à 10 ans, je dirais, ça va. J'étais quand même assez, je pense, assez timide. J'étais pas un gosse super extraverti. C'est les souvenirs que j'ai, mais j'ai très peu de souvenirs de l'enfance. En fait.
C'est vrai. Ouais. Pourquoi tu les...
Je pense que pendant longtemps j'ai pris l'habitude d'effacer le passé. J'ai toujours été projectif, c'est-à-dire ce côté je regarde vers l'avenir, je me projette, j'ai toujours tendance des fois à pas être assez dans le présent parce que j'ai toujours ce côté projectif, dire ah ouais attends, qu'est-ce que c'est l'interview derrière, qu'est-ce que je vais faire ce soir, qu'est-ce que je vais faire demain, puis en fin de semaine je suis en Suisse, et puis tu vois, au lieu de dire bah voilà, vis le moment que t'es en train de vivre. Et du coup j'avais, je pense, un peu ce réflexe déjà peut-être à l'époque, mais en tout cas j'ai du mal à me retourner derrière.
T'as pas trop souvenir
je crois que ça me perturbe beaucoup, mais j'ai essayé de travailler là-dessus. Je me suis dit, et c'est peut-être lié au fait que la nostalgie, tu peux pas changer le passé. Tu peux toujours changer l'avenir, tu peux toujours modifier ce qui va se passer. Donc t'as une impression de contrôle, ou en tout cas de maîtrise, et le fait que le passé puisse, voilà, tu peux plus rien y faire, fait que je pense que je fuis ça. Ouais, je sais pas. Il y a un truc à chercher dans le côté contrôle freaks ou un truc comme ça. Ouais.
T'es jamais allé en analyse?
Non, pas encore. Peut-être un jour, mais non, j'ai pas l'instant.
Pourquoi tu disais 10 ans? Il se passe quoi à 10 ans?
10 ans, il y a le passage, honnêtement, il y a le passage au collège, où déjà, je trouve que c'est plus tendu. Je trouve que c'est vraiment le moment où tu sors de... Le primaire, ça reste encore quelque chose d'assez libre, d'assez chouette. Dès que t'arrives au collège, tu te prends quand même le monde adulte dans la gueule, la structuration des cours, la multiplicité des profs, on se rend pas compte, mais le fait d'avoir un seul prof qui est tout le temps là, avec qui tu fais ton année, la douceur que ça amène, etc. Une fois que tu passes au collège, ça y est, c'est segmenté, découpé, t'as plusieurs matières, tu vois. Donc c'était, moi j'avais un an d'avance en plus, donc j'étais assez jeune, j'étais toujours un petit peu décalé, quoi, un peu la tête d'œuf, tu vois, qui est un peu en avance. Et après, bah, il y a le divorce de mes parents, ce qui fait qu'il arrive à 13 ans, il arrive au moment où j'arrive en quatrième. C'est quand même le grand choc de l'enfance pour moi. Je m'y attendais absolument pas. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus assez brutalement, même alors que mes parents, eux, avaient prévu déjà l'appart de mon père, la maison de ma mère. Enfin, ils avaient bien anticipé le truc, mais je pense que je voulais pas voir, je voulais pas y croire. Et là, c'est un gros choc parce que moi, je faisais, deux jours chez l'un, trois jours chez l'autre, cinq jours chez l'un, deux jours chez l'autre, trois jours. Il y avait une rotation 5-3-2 comme ça pendant 2 ans. Après, on a négocié avec mon frère de faire une semaine. Mais malgré tout, le fait de sans arrêt alterner l'un, l'autre, sur deux personnalités ultra différentes. Vraiment, ma mère était agrégée d'anglais. Ouais. On était très bien chez elle parce que on avait chacun sa chambre, on avait les conditions de confort, on mettait les pieds sous la table, on était assez choyés. Et chez mon père, c'était plus à la dure. On était sur des lits superposés, une seule chambre. Ma sœur venait pas chez mon père parce qu'elle avait choisi.
Ça fait un peu éclater le cocon.
Ouais, ça fait éclater le franchement, la cellule familiale. Et puis, mon père, c'était l'empire du foot, quoi. Donc, on jouait au foot. Mon père était entraîneur. Mon frère était cadet championnat de France. Donc, on était sur cet empire-là, mais avec aussi la discipline que ça impliquait. Mon père était assez dur. Jugeait les matchs très, très durement. Donc,
tu joues au foot, toi, hein?
Ouais, je joue au foot jusqu'à 15 ans, j'ai joué à un assez bon niveau. Et donc, c'était plus, il y avait beaucoup plus de pression. Quand j'allais chez mon père, j'allais dans un mode un peu plus de résilience, de combat. Chez ma mère, je me reposais plutôt. Et je faisais ça sans arrêt, quoi. Okay. Donc, franchement, c'était un peu âpre. Ouais, c'était un peu âpre.
Tu disais que t'étais un peu une tête d'œuf au collège.
Ouais, donc ça va, j'étais pas le gars qu'on tabasse à la récré, ouais. Quoi. Mais. On était quand même avec un copain, on était un peu les... De toute façon, un peu humoristique, mais quand on voulait faire chier, c'était nous un peu qu'on faisait chier. Donc on jouait beaucoup avec l'ironie, on méritait aussi de se faire un peu latter des fois, mais c'était pas désagréable. Humainement, je garde un souvenir de quelque chose de plutôt agréable. C'est plus le mode de vie qui était... Moi, je trouve ça ultra dur, en fait, de changer de lieu et de s'adapter complètement à autre chose, quoi.
Ok. T'as l'impression que ça t'a marqué, toi, aujourd'hui, en tant qu'adulte?
Ah, mais ça m'a construit, hein, ouais. En fait. Ça m'a construit à la fois positivement, parce que je pense que ça m'a donné une grosse capacité de résilience, une grosse capacité à lutter, une grosse capacité d'adaptation. C'est-à-dire, j'ai pas eu de mal à m'adapter à des milieux différents, parce que le changement était tellement majeur que... Donc ça m'a donné de la fluidité par rapport à ça. Ça m'a appris à cliver aussi, vraiment à découper les espaces affectifs. Des fois, j'ai une capacité à couper, vraiment...
Tu veux dire à séparer?
Ouais, c'est-à-dire que vraiment, tu vois, si je laisse mes filles, pendant 3 jours, je vais être coupé, je vais pas y penser, quoi. Tu vois, je vais être capable de vraiment de fermer le volet et de faire un espace hermétique où quand je m'isole pour écrire, je vais être capable de vraiment descendre le volet roulant et de pas souffrir, quoi. Je vais pas être dans un continuum, je vais être capable de couper les liens. Et ça, c'est clairement la séparation de mes parents qui m'a appris ça, quoi, je pense. Ouais.
Ok. ce qui t'a amené à...
Parce que sinon tu souffres, quoi. Voilà. Ouais. Si, si quand t'es chez ton père, tu te dis, ouais, j'aimerais bien être chez ma mère, et inversement, tu t'en sors pas, quoi. Mmh.
Ouais. Tu t'es brillant élève, j'imagine ?
Ouais, j'étais bon. C'est paradoxal, parce que j'étais... Bon, ouais, en primaire, j'étais toujours dans les premiers, deuxièmes, j'étais bon au collège. Après, je commençais à baisser vers seconde, première, terminale, surtout terminale. Et après, ça, c'est, je me suis remis à être vraiment fort en prépa, quoi. Mais,
qu'est-ce qui fait que t'as baissé au lycée de Saint-Gabon?
Je sais pas trop.
La rébellion adolescente.
Je pense, tu sais, c'est des boucles, quoi. C'est-à-dire, des moments, tu commences à perdre confiance en toi, tu commences à croire que t'es pas bon, tu t'en tiens dans une boucle, là, tu pars en match, mais je m'étais convaincu que j'étais pas bon. Et à un moment donné, en prépa, sur une c'est marrant, hein, mais c'est des basculements sur vraiment une épreuve de prépa, alors qu'on était 50 et que je pensais être plutôt dans la fin. Je fais un contrôle et ce contrôle, je me retrouve dans les deux, trois merdes. Et là, ça a changé ma vision sur... Je me suis dit, mais fais-toi confiance, mon Dieu. Parce que je faisais comme beaucoup de gamins. Parce que moi, j'étais prof de maths, pas mal. J'ai gagné ma vie comme ça aussi quand j'étais jeune. En 7 ans, j'ai donné des cours. Et en fait, les maths, c'est ultra psychologique. C'est extrêmement psychologique. Et le fait que tu as l'exercice, tu commences sur une voie, t'avances pendant 10 minutes et puis tu crois pas en toi et tu dis non, mais c'est pas la bonne voie. Tu reviens, tu pars sur une autre voie, puis t'as pas confiance en toi. Et ensuite, tu reviens sur la première voie et t'as perdu une demi-heure. Et juste, si t'as confiance en toi, bah, tu la perds pas cette demi-heure et tu vas au bout des exercices. Et en fait, c'est ça que ça a changé. C'est juste une espèce de conception de soi où je me suis dit, tiens, mais en fait, je suis bon en maths, quoi. Et c'est marrant, mais ça m'a servi. C'est une leçon qui m'a beaucoup servi après, à la fois pour enseigner aux gamins et puis même dans le reste de ma vie, quoi. De dire, ça sert à rien de toute façon d'hésiter, ça sert à rien de revenir et de repartir sur une autre voie, puis de revenir, puis de repartir sur la première. Tu prends la voie que t'as pris et tu vas au bout, quoi. Et puis si tu dois te cogner, tu te cogneras, mais et c'est fou comme ça m'a aidé, ça, ouais.
Tu fais confiance à ton intuition de cette là, parce qu'en général, c'est...
Énormément, ouais. Ouais, maintenant, et de plus en plus, ouais. Je trouve qu'avec l'âge, ton intuition devient de plus en plus fine, de plus en plus juste. L'expérience fait que tu te trompes vraiment. Enfin, moi, sur les gens, c'est vraiment... Je trouve que ça devient extrêmement rare que je me gourre, quoi. Tu as très, très vite la sensation de qui t'as en face de toi et tu te gourres beaucoup moins. Ouais, ça, c'est clair.
Tu t'es planté un peu par le passé?
Ouais, bien sûr, dans le passé, dans ma vie amoureuse. Ouais, je me suis beaucoup planté. Surtout dans la vie amoureuse, en fait. Ouais. C'est là que tu te gourres le plus, parce qu'il y a tellement d'affects, il y a tellement d'engagement. Je me suis vraiment beaucoup planté. Mais moins sur les amis, ouais, carrément.
Okay.
Et maintenant, j'ai l'impression... je sais pas si je ferai une grosse connerie, c'est sûr, parce que maintenant je commence à avoir trop confiance, mais je trouve que l'intuition, elle vient et tu commences à... C'est génial, ça, le vieillissement pour ça, c'est génial. C'est-à-dire que t'as rencontré tellement de gens, t'as vu tellement de choses que tu commences à... Quasiment en 5 minutes, tu as une idée, ouais, de qui t'es en face et ce que tu peux faire. Ouais,
c'est sûr. Après, tu fais un truc un peu particulier après cette école prépa, c'est que tu rentres à l'ESSEC. C'est étonnant, en fait, vu ton parcours... qui a suivi, en fait, c'était quoi ton idée à l'époque de...
C'est étonnant et en même temps, voilà, c'est des constructions familiales aussi de d'élitisme. C'est-à-dire qu'il y avait ce truc particulier. Mon père, lui, il était carrossier et puis après, il a arrêté la carrosserie au bout de 25 ans. Il est devenu, entrepreneur en bâtiment, mais c'était pas entrepreneur parce qu'il rachetait, en fait, des baraques, il les retapait, mais il savait tout faire. Hein, c'était un manuel, il savait absolument tout faire, mon père. Mais il avait ce côté très simple qui était que quand je revenais à la maison et je lui disais « Ah, j'ai eu 18 en maths, etc. » Il n'avait rien à foutre du 18, il me disait « T'es premier ?» Et je disais « Non, il y a Joseph, là, il a eu 19. » Il dit « Pourquoi t'es pas premier ?» Tu vois ? Il y avait ce truc, mais c'est tout simple, tu vois. Il mettait pas une pression ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment, il était pas là à regarder mes devoirs. Mais il y avait ce truc-là, dire « Pourquoi t'es pas premier, quoi ?» Tu vois ? C'est con cette question, hein, mais c'est, tu sais, quand on parle des questions structurantes, c'est vraiment... Et de l'autre côté, il y avait ma mère qui, elle, venait du système républicain, méritocratique, le plus pur, quoi, qui était fille de coiffeuse, en fait, et qui, parce qu'elle était envoyée 3 mois en Angleterre chaque année, etc., est devenue très forte en anglais, complètement bilingue, a passé la grecque d'anglais. Et cette agrégue d'anglais, cette épreuve-là, vraiment, tu le sens, et encore aujourd'hui, a été fondateur de son identité. C'est l'accomplissement de sa vie, quoi, cette agrégue. Donc, elle nous l'a raconté je sais pas combien de fois. Et ça finit aussi par te structurer dans une espèce d'épreuve initiatique, d'accession à l'élite. Et du coup, bah, comme j'étais bon à l'école, j'ai fait prépa HEC, mais parce que j'avais ce côté aussi assez... j'étais bon en histoire géo, j'étais bon en langue, j'étais pas mal en maths, en français, en philo... J'avais un côté un peu touche à tout. Donc, tu vas en prépa HEC parce que t'es pas juste matheux ou juste. Et là, je me suis éclaté en prépa. Et après, t'arrives à l'école de commerce et tu te rends compte que on va te faire de la merde quand même pendant 3 ans et on te destine à quelque chose qui est. qui est juste trivial, qui est de maximiser le profit des entreprises qui vont t'embaucher.
Tu te rends compte tout de suite, ça ?
Ouais, très vite, très vite, quasiment immédiatement, puisqu'on te fait une session d'initiation qui s'appelle Manager du futur, etc. On t'explique que tu vas manager les entreprises, que t'es l'avenir de la France, que t'es l'élite de la France. Enfin, on te bourre le mou, mais vraiment, il y a une sorte de construction très élitiste qui t'est mis en marche dès les premiers jours dans l'intégration. Et après, tous les cours que tu fais, que ce soit de la finance, du marketing, des ressources humaines, de la compta, tous les cours, il y a toujours l'arrière-plan, mais qui n'est même pas dit, qui n'est même pas posé idéologiquement, qui est de dire, ben voilà, tu seras dans une entreprise et il faudra que, quand tu fais le bilan actif-passif, ben voilà, que la marge bénéficiaire soit maximale, quoi. Donc, et tu découvres ça, et moi j'étais plus intéressé dans la prépa par la culture générale que ça te donne, qui était assez fabuleuse. T'apprends énormément de choses en 2 ans, c'est une sorte d'athlétisme de haut niveau, au niveau intellectuel, vraiment, c'est la période de ta vie où t'es le plus brillant, c'est incroyable ce que je mémorisais à l'époque. Je me souviens encore des révisions où je prenais une double copie comme ça. Et il y avait 200 chiffres dedans, tu vois. C'était les plans quinquennaux soviétiques, tu vois. j'apprenais ça, toutes les productions de houille, de pétrole, de machin. Et à la fin, je me refaisais dans ma tête et je connaissais les 200 chiffres. Je serais incapable aujourd'hui de retenir 3 chiffres. Mais là, t'es à une période de ta vie où tu peux... Donc ça te donne quand même une espèce de puissance intellectuelle qui ensuite te sert, hein, aussi, moi qui m'a servi dans l'écriture.
Bien sûr.
Qui m'a, donc je trouve que c'est une formation extraordinaire, quoi. Et mais derrière,
oui, pourquoi
derrière
faire,
c'est génial, parce qu'en fait tu sélectionnes les meilleurs cerveaux, en tout cas dans une logique d'efficacité, on va dire, parce que l'intelligence est beaucoup plus vaste que ça, mais en tout cas dans cette intelligence-là, on sélectionne les meilleurs cerveaux pour ensuite les faire exercer des métiers d'oppression, en fait, dans les entreprises, en tant que cadre sup. Et c'est fou, parce que tu comprends très vite que c'est ça, tu comprends très vite que le système naturellement construit ça, et que c'est à toi de décider si tu veux participer à ça ou pas.
Et tu rentres dans l'école, mais t'es déjà hors du cadre, alors?
J'étais déjà très à gauche en prépa, j'étais réputé comme le communiste de la bande, tu vois. Mais quand je rentre, non, je suis surtout en porte-à-faux. Parce que tu te retrouves avec une promo de 250 personnes où 95% des gens adhèrent à cette idéologie-là, parce que là, c'est des fils d'eux et des filles d'eux. Donc là, tu te prends la reproduction sociale de Bourdieu, mais direct, dont je soupçonnais rien, puisque je n'avais pas lu Bourdieu, je ne connaissais pas ces choses-là. Moi, je venais d'un milieu...
Tu n'avais pas fait d'économie en seconde, là, tu sais
Ouais, mais bon, voilà, tu ne savais pas trop. Et puis, moi, étant vraiment... comme c'est mon père qui vraiment dirigeait la famille, et que mon père était vraiment un artisan... Et que la clé idéologique, c'était plutôt le foot que toute autre chose. Je venais d'un milieu populaire, quoi. C'était pas ma mère qui imprimait sa marque, qui aurait pu, tu vois, être la sienne, tu vois. Mais, et du coup, je me prends vraiment donc, fils d'avocat, fille de ministre, fille de chef d'entreprise de haut niveau, que des gens qui étaient déjà, qui étaient issus de ces couches. Et ce système reproduit ces couches, hein, puisque la plupart, le taux est toujours de 1% ou 2% de chef de famille ouvrier, quoi. Voilà. Donc, et donc j'ai pris ça dans la gueule et j'étais en porte-à-faux, j'étais pas très à l'aise, j'étais comme dans tout groupe dont tu ne partages pas les valeurs. Donc alors après j'ai commencé à trouver des gens un peu donc j'ai vécu plutôt pas mal quand même au final, mais avec quand même une espèce de haine ou de revanche ou d'agressivité assez forte, et que je garde aujourd'hui, hein, sur ce type de profil. Dès que Macron est arrivé à la gouvernance, par exemple, moi, c'était immédiat le rejet, parce que j'ai reconnu exactement les mêmes profils que j'avais dans ces écoles. Donc, je sais très bien comment il est formaté, je sais très bien comment il est construit, je sais très bien d'où il vient. Et j'ai envie immédiatement de lui mettre des claques.
Oui. Ouais, ça a l'air d'être physique.
Ouais, c'est physique. Non, mais c'est vrai, il y a une dimension physique, parce que tu l'as vécu et tu sais bien comment c'est, quoi. Et qu'il n'est pas remis en cause ça, ça, c'est insupportable.
Petit break dans l'interview, mais ne bougez pas. Si vous écoutez un de mes podcasts, j'ai besoin de vous. J'ai lancé une grande enquête pour mieux connaître de qui est composée l'audience de mon podcast. C'est très important pour moi, ça me permet de mieux savoir qui vous êtes, comment vous écoutez mes contenus, et aussi de savoir si vous avez des idées d'invités à me suggérer, par exemple. Ça vous prendra 3 minutes, et moi, ça me donnera un vrai coup de main. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, vous pouvez même le remplir tout en continuant à écouter ce podcast. Merci d'avance, et tout de suite, la suite de l'interview.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Et malgré tout, tu rentres dans... Enfin, tu fais ton parcours. Qu'est-ce que tu fais après? Tu te mets tout de suite à l'écriture ou tu... Parce que ça, je t'avoue que j'ai pas trouvé des masses d'infos là-dessus.
Non, mais c'est super bizarre. Mais moi, je comprends pas le virage. Hein, parce que moi, adolescent, j'étais absolument pas littéraire. Enfin, en tout cas, j'étais absolument pas lecteur de livres. Je lisais des BD parce que mon père ne lisait que des BD. C'est une culture qui m'a transmis, en fait, que j'ai compris très tard qu'il me l'a transmis.
Tu lisais quoi comme BD?
Je lisais pas mal de... Alors, on lisait L'Estrange et les...
Ouais.
Donc, on lisait les Iron Man, les Spider-Man, etc. Les X-Men et tout ça. Mais on lisait aussi beaucoup de BD franco-belges, en réalité. Les Valérian, les Vagabonds des Limbes, évidemment, tous les Torgal, les Astérix, etc. Et il n'y avait rien d'extraordinaire. Mon père n'était pas pointu dans la BD, mais il en lisait beaucoup, les Blueberry. Donc, mine de rien, ça construit un imaginaire. Et comme il aimait plutôt bien quand même la SF, le fantastique, je pense que c'est là que vient aussi l'espèce de vivier. Mais quand je suis adolescent, je n'ai à aucun moment le désir d'être un artiste, quel qu'il soit. Tu vois, j'ai le désir d'être footballeur, comme c'était l'idéologie familiale. Après, j'ai le désir de faire de la politique, par contre, assez tôt, en tout cas, je me rappelle, à 15 ans, je disais, je veux changer le monde, je veux changer la société. Enfin, tu vois, une volonté de transformation sociale, ça, je l'avais.
Ça devenait d'où, ça?
Je sais pas, parce que mon père était pas vraiment politisé, ni ma mère. Ma mère a jamais été politisée. Mon père, un tout petit peu plus, il votait communiste jusqu'aux années 70. Après, il a arrêté de voter. Maintenant, il a voté Front National, je pense. Enfin, il vote pas, heureusement, mais sinon, il voterait Front National.
Il fait partie de ces profils que la gauche a perdu, quoi.
Bien sûr, a perdu vraiment sur le... Mais à travers la figure du racisme, hein, vraiment, quoi. Et du coup, j'en sais rien. Je sais pas trop pourquoi, en réalité. Mais j'arrive, en tout cas, à l'ESSEC. Je commence à écrire quelques nouvelles. Mais ce qui était certain, c'est que je pense que la grande raison, c'était que j'étais bloqué dans ma vie. Voilà. J'ai essayé de militer un peu. Je connaissais personne dans les milieux militants. Parce que, justement, j'avais pas de lien avec ça. À l'ESSEC, il y a personne militait comme ça. Donc, je fais Amnesty, je fais le Parti Humaniste. Mais en vrai, il m'a manqué le fil, quelqu'un qui m'aurait amené dans un parti ou dans un syndicat ou dans... Et du coup, je suis bloqué dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de colère, j'ai beaucoup d'envie de changer ce monde et j'ai aucun point concret d'appui, quoi. Et ça m'a fait basculer dans l'imaginaire. En fait, j'ai basculé dans l'imaginaire et je me suis dit, tiens, je vais faire un livre sur la société de contrôle. Une fois que je comprends en lisant Deleuze que la clé, c'est qu'on passe de ce régime disciplinaire à un régime de contrôle beaucoup plus subtil et que c'est pour ça que je me sentais mal aussi, c'est que ce régime est infiniment plus sournois que le régime, ouais, un peu plus sévère et direct, fondé sur la police, l'armée, l'usine. Quand j'ai compris ça, j'ai eu envie d'en faire un livre en disant dans ma tête, il faut que les gens comprennent aussi ça. Quoi. Il faut que...
Comment t'en viens à lire Deleuze? Parce que c'est en général des auteurs qu'on t'amène justement.
Ouais, et ça c'est des potes, tu vois, okay. Ça c'est des potes, justement les potes intello de la prépa. Les gens avec qui j'aimais faire de la philo. Moi, j'ai toujours été bon, très bon en philo. Hein. Par contre, j'étais toujours au premier ou deuxième. J'avais vraiment un don pour ça. Et les potes qui aimaient aussi la philo m'ont amené, m'ont fait lire Mallarmé, m'ont fait lire Deleuze. Et après, c'est les rencontres, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on te fait rencontrer beaucoup d'auteurs sans que tu t'en rendes compte. Et il y en a qui produisent quelque chose de tellement intense sur toi que tout d'un coup, ça réémente tout ton champ autour. Et après, une fois que j'ai commencé à lire Deleuze, j'ai plus lâché. Enfin, moi, j'avais lu un peu Nietzsche avant et je lis le Deleuze sur Nietzsche et c'est le changement, le basculement. Ouais, c'est un des grands basculements de ma vie. C'est le livre qui change ma vie.
Qu'est-ce que ça t'apporte exactement?
Bah, ça crée quelque chose de complètement dingue. C'est-à-dire que tu arrives, après avoir lu le livre, tu arrives à distinguer ce qu'il appelle les forces actives des forces réactives. Et de dire que finalement tout l'Occident, depuis Jésus, en fait, est fondé sur le déploiement des forces réactives. Donc tout ce qu'il appelle lui ressentiment, rancœur, mauvaise conscience, culpabilisation, idéal ascétique, etc. Et que toute cette sphère-là, qui est archi dominante, même aujourd'hui, quand tu les vois dans les réseaux sociaux, etc., C'est pas ça être actif, voilà. Et il te pose sur l'activité, ce que c'est affirmer quelque chose. Donc il cherche la double affirmation plutôt que d'avoir deux négations pour faire une affirmation. Et on le voit en lutte politique, c'est souvent ça, quoi. C'est-à-dire que, ok, les gens sont racistes, donc je condamne les gens qui sont racistes, donc je suis antiraciste, pour arriver à dire simplement que bah il faut être lié aux gens, simplement que il y a un métissage à faire, simplement qu'il y a un bonheur à découvrir une autre culture et à la partager, simplement. Mais il faut à chaque fois deux négations pour faire, tu vois. Mais c'est pareil sur le sexisme. Tu dis voilà, il y a des sexistes. C'est horrible, machin, je suis contre les sexistes, d'accord, je suis anti-sexy, ok. Pour arriver à l'idée que simplement le rapport entre les hommes et les femmes doit être harmonieux et ça m'a toujours servi tout le temps. Tu vois, c'est-à-dire que moi j'essaye d'arriver directement à l'affirmation plutôt que de passer par deux négations pour poser quelque chose, quoi. Et ça, il le pose directement avec une critique sur Hegel d'emblée dans le bouquin. Et ce livre, il m'a retourné. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un livre qui m'a dépollué, qui m'a enlevé toute la toxicité. Donc dès que je sens que je tombe dans la jalousie, le ressentiment, l'espèce de rancœur, j'ai une sorte d'instinct naturel pour pousser ça et aller sur les directions qui sont... Et je pense que ça m'a beaucoup construit. Donc ça te construit aussi vers la joie plutôt que vers la tristesse et les passions tristes de parce que Deleuze c'est on le dit hein c'est le, la grande on dit c'est la grande identité Nietzsche Spinoza c'est la convergence des deux auteurs à la fois l'étude des passions tristes et de la façon de les dépasser chez Spinoza et la prééminence de l'affect et puis chez Nietzsche le vitalisme et les forces actives. Donc Deleuze est à la croisée de ça et pose donc un vitalisme très fort qui, moi, m'a toujours guidé, voilà. Mais parce que je m'y retrouvais, parce que je pense que c'est quelque chose que j'avais aussi en moi. Et tu vas vers les auteurs qui correspondent à ce que tu cherches. Hein, donc,
et qui nécessite aussi un travail d'introspection, l'air de rien. Parce
Ben, très fort. Mais après, tu sens que ça répond à ce que tu as... Parce que j'ai lu, tu vois, des bouts d'Heidegger, j'ai lu Sartre à l'époque, je lisais... voilà, j'ai essayé Hegel, tu essayes tout, quoi. Et tu vois très vite si ça te parle ou si ça te parle pas, quoi. Et Deleuze, il y avait cette immédiateté du... C'est-à-dire qu'immédiatement, tu lisais une page, ça, voilà, t'avais pas perdu ta journée. Une page de Deleuze, tu peux passer des mois à y réfléchir et ça touche des choses vraiment extrêmement directes. Donc moi, j'ai gardé ça.
Ouais. Ok. Pour revenir à ton parcours, donc effectivement, tu commences à écrire quand t'es à l'ESSEC, c'est ça, un peu.
À la fin de l'ESSEC. Mais à l'époque, après, c'est les rencontres amoureuses aussi. Là, j'étais avec une fille, la seule avec qui ça a duré un peu avant Sophie, qui est ma compagne aujourd'hui depuis 17 ans, quoi. Mais la seule qui a ça a duré, qui était metteur en scène. On est resté 5 ans ensemble et elle mettait en scène des pièces, quoi. Donc ça a été une construction commune très forte, très importante dans le domaine artistique. On allait à Avignon et une des choses qui m'a le plus construit d'ailleurs artistiquement, c'est de voir les comédiens répéter, quoi. C'est vraiment c'est quelque chose d'absolument fabuleux où tu vois comment l'itération, comment le travail monte tout d'un coup la performance artistique à un niveau où tu franchis le mur vraiment de la... C'est-à-dire qu'ils jouent, ils jouent, ils jouent, et à un moment donné, ça, tu passes le mur et t'es dans le réel. C'est-à-dire qu'ils te transmettent quelque chose qui est absolument crédible et tu sens qu'en eux-mêmes, ça y est, c'est descendu dans la vérité du corps, de la sensation, de ce qu'ils éprouvent et ils arrivent à te le passer. Et de voir la somme de travail qu'il faut pour ça, de voir que le travail paye, ça a été très, 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 très constructeur pour moi. Et du coup, j'ai travaillé énormément mes livres en ayant aussi vu ça. C'est-à-dire, j'ai jamais été un artiste qui croit à l'espèce de beauté native du jet ou à l'évidence d'être doué, puis que ça va couler et sortir. Moi, j'ai beaucoup cru au travail, mais c'est l'héritage aussi paternel et maternel. Oui. Après, une fois que t'as énormément travaillé, là maintenant, à 51 ans, il m'arrive de faire des jets qui ont la grâce, si tu veux, et tu peux faire croire que, waouh, qu'est-ce que je suis doué. C'est le produit de 30 ans d'artisanat. Donc... Enfin, c'est la fameuse, tu sais, anecdote de Picasso qui on demande un dessin et puis qui le fait en 1 minute 30 et qui demande 10 000 euros. Et la nana, elle lui dit, mais putain, vous avez mis 1 minute pour le faire. Et qui dit, non, j'ai mis 30 ans, 35 ans. Et il a raison. Enfin, tu vois, pour avoir ce trait, cette qualité de trait, cette évidence. Bon. Donc ça, c'est un grand plaisir quand tu vieillis. Mais quand t'es jeune, il faut bosser comme un fou. Ouais. Et j'ai bossé comme un fou. Ouais.
Ça se sent.
Ouais, non, mais j'ai bossé comme un fou, mais ce serait sur le premier. Tu vois, le premier livre, La Zone du Dehors, pour moi, c'est un livre qui est formidablement bossé, mais de façon très laborieuse. J'ai repris le jet, mais je sais pas combien de fois, quand je l'entends jouer au théâtre, etc., je me reviennent les phrases et je les sais encore 30 ans après. Et en tout cas, je reconnais le chemin comme si je revenais dans un pays que j'avais visité et dont j'ai finalement rien oublié. Mais il y a un côté laborieux, cimenté pour moi, cimenté. C'est comme si j'avais pris des pierres et je les ai surcimentées. Tu peux plus bouger un bloc sans devoir tout reprendre. Ça manque d'air profondément. Mais c'est l'époque dans laquelle je l'ai fait, où j'ai mis beaucoup de travail dessus. Et tu veux que le mur tienne, donc tu rajoutes encore. Et si t'as encore, malgré tout le ciment que t'as mis, il faut que tu rajoutes encore une couche pour avoir l'impression que ça, sinon que ça va tomber. Après, c'est beaucoup plus ouvert ce que tu fais, mais parce que la confiance est là, parce que tu laisses respirer le texte, parce que tu fais confiance au lecteur, parce que plein de raisons. Mais
t'arrives à avoir une image encore sympa du travail que t'as fait à l'époque.
Ouais, parce que je moi, ce que je salue en moi à cette époque-là, c'est le courage. Voilà, j'ai un côté hyper persévérant, hyper niaqueux, et que ce soit sur la zone La Horde ou Les Furtifs, les trois livres. C'est un boulot de niaqueux, c'est vraiment un boulot de quelqu'un qui s'accroche, qui se bat, qui lâche rien, qui est donc ce côté accrocheur, je pense que c'est vraiment une grosse qualité que je suis tout sauf un dilettante, voilà, ça c'est sûr. Et ça a construit, et c'est fait que j'ai fait très peu de livres aussi, parce que chaque fois ils ont été beaucoup bossés, chaque fois c'est 3 ans d'écriture, donc ça paraît rien, mais ça fait 9 ans d'écriture vraiment blindée, vraiment à bloc, avec l'intensité maximale, et ça fait beaucoup quand même. Tu vois, ça me...
Ouais, j'imagine. Donc tu sors La Zone de Dehors en 92, c'est ça ?
Je commence en 92, je le sors en 95. Ouais, entre 92 et 95, je l'écris. Ouais.
Et tu l'as réécrit là
Après, je le reprends un petit peu au moment où on le ressort, c'est-à-dire au moment où La Vol justement récupère le manuscrit qui avait été édité à Célibris, à toutes tes éditeurs, c'est une histoire incroyable aussi, hein, puisque mon premier livre, personne en veut, comme tous les auteurs. Donc on fait le tour de la place. Je connaissais déjà Mathias, mon éditeur actuel à l'époque, mais il était chef des ventes au Seuil, mais il connaissait du monde. Donc il me dit, écoute, moi il avait adoré le bouquin, il me dit, je vais essayer de le placer. Donc il le place au Seuil, il essaie de le voir. Et il y a quelques bons retours, mais les gens disent, non, c'est pas notre truc, c'est trop lourdeau, c'est trop politique, c'est trop... Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un bouquin assez massif, quoi. Et il trouve finalement quelqu'un, et c'était un gars, c'était le premier éditeur à l'époque qui faisait l'édition numérique. C'est-à-dire, il imprimait les livres en numérique, donc il imprimait 50 par 50. Et il prend La Zone, il le fait en 2 tomes en plus La Zone, il en imprime 50 et il les posait en dépôt-vente dans les librairies gays de Paris parce qu'il était gay et parce que c'était les premières librairies qu'il avait. Et on en a vendu comme ça en dépôt-vente.
Waouh!
Donc c'était rien, et je te dis, je crois, mais j'aimerais bien avoir les chiffres aujourd'hui, mais je crois qu'au bout de 5 ans, on en avait vendu 500. Voilà, et on était content, hein, tu vois, et j'avais une seule critique, et c'est marrant parce que je l'ai eu ce journaliste ce matin,
ah oui.
C'était un écrivain qui s'appelait Francis Misio et qui travaillait pour le magazine de la FNAC et qui dit ce livre est un chef d'œuvre. Voilà, c'est tout, il écrit je sais pas 15 lignes pour dire c'est super, c'est génial ce truc, basta. Donc tu vois, quand j'arrive sur La Horde du Contrevent, je suis totalement inconnu, donc voilà. Et sur La Horde, là, Mathias va chercher Jacques Chambon, le grand éditeur de l'époque, qui avait fait Présence du Futur, qui était vraiment une figure très grande, très respectée dans le milieu de la science-fiction, qui avait fait traduire Kadic en français, etc., plein de choses. Et lui, il me demande 5 pages pour expliquer le projet, j'explique le projet, il commence à lire les trucs, il me dit, voilà, c'est trop riche, trop de personnages, trop d'idées, trop de machin, tu devrais réduire à 3 personnages. Moi, évidemment, j'étais incapable d'entendre quoi que ce soit, donc je lui dis, non, mais ça sera 23 personnages ou rien. J'envoie une lettre de 5 pages, il me dit, bon, ok, il avait compris que c'était un malade, donc il me fait, ok, vas-y. Et j'écris les 3 premiers chapitres, et il suivait, et là, et au milieu du truc, il meurt d'une crise cardiaque dans la Corrèze, au fin fond de la Corrèze.
Wow.
Et il venait d'aller arriver à la retraite, en plus c'était ouf, hein, parce qu'il était prof d'anglais lui aussi. Et donc moi j'avais pas signé le contrat, parce que j'étais contre ce contrat, je trouvais trop léonin, donc je faisais chier le service juridique. Toujours le côté teigneux. Et,
ouais.
Et son successeur a refusé le manuscrit, il me laisse traîner pendant 3 mois, 4 mois, et puis il me dit non mais c'est trop prétentieux, je l'ai enfin au fond de la Corse, que j'écrivais en Corse à ce moment-là le livre. Et j'ai réussi à enfin l'avoir, et il me dit j'ai lu l'Exorde, j'ai lu les premiers chapitres, et on va pas l'éditer parce que vraiment... D'abord, j'ai des impératifs de rentabilité, il me dit. Et ensuite, je trouve que c'est un livre prétentieux. Quoi. Alors, tu sais, moi, je me démonte pas, parce que j'étais en plein d'écrire. Je lui dis, mais prétentieux, tu veux dire... c'est un livre qui prétend à quelque chose, qui prétend à certaines choses, stylistiquement, polyphonie, sur les idées. Et il me dit, non, mais c'est pas qu'il prétend à quelque chose, c'est que c'est prétentieux, c'est vaniteux, quoi. Et il me dit, voilà, stylistiquement, c'est...
Oh là là.
Donc...
tu dois le prendre,
ouais,
le prendre dans la tête,
là. Le tuer, évidemment. Mais bon, ça ne m'a pas démonté. Moi, j'ai continué. J'ai fait le bouquin. Je me suis dit, on trouvera... Soit je le rééditerai avec Célibris, mon premier éditeur. Soit je trouverai autre chose. On verra bien. Et ça ne m'a jamais arrêté. Et à la fin, quand je l'ai eu fini, bah, j'en ai reparlé à Mathias. Mathias a pris le bouquin, refait le tour de la place de Paris sur quelques éditeurs clés. On a été voir De Noël. De Noël a renvoyé un carton comme ça, je me rappelle encore. C'est Gilles Dumais qui dirige, qui est lui-même écrivain et qui dit cette bouillie d'idées parfois formidable, une abomination stylistique. Il dit, ouais, il y a plein de trucs qui sont pas mal, un peu géniaux et tout, mais c'est une bouillie, en fait, tu vois. On peut rien faire de ce truc, c'est too much. Et donc, tout le monde le refuse, quoi. C'est pour ça, moi, quand les écrivains jeunes viennent me voir et machin, je dis, mais suivez votre ligne, quoi.
Ouais.
N'attendez pas d'être reconnu, que quelqu'un reconnaisse ou qu'un éditeur vous dise c'est bien, etc. Parce que si vraiment ce que vous faites est profondément original... Par définition, l'industrie de l'édition n'est pas prête, comme pour tous les artistes, ouais, quoi, qui font des choses originales. Elle n'est pas prête, donc il faut créer le public qui n'existe pas encore. Et un éditeur, il ne connaît que le public qu'il a déjà...
Qu'est-ce qui fait, tu penses, qu'à l'époque, La Horde est aussi mal reçue, en tout cas par ses premiers éditeurs?
Parce qu'il y a ce truc qui est génial, mais qui... Moi, si j'avais beaucoup de ronds, et peut-être un jour je le ferais, je mettrais des ronds à perte juste pour l'émergence des nouveaux auteurs, c'est-à-dire un fonds où je finance 25 lecteurs et on lit tous les manuscrits qui traînent dans les maisons d'édition et qui sont... Un éditeur, c'est très simple, il n'a pas le temps, d'accord ? Il doit déjà gérer tout ce qui sort, il doit déjà gérer les auteurs qu'il a sous sa coupe, il va lire que les amis d'amis ou les gens qui l'ont recommandé tel ou tel bouquin qu'il connaît. Donc en fait, tous les manuscrits envoyés par la poste, sauf miracle, ne sont pas lus et ne sortiront jamais. Et dedans, il est évident qu'il y a des pépites, il est évident qu'il y a des chefs-d'œuvre, et notamment le chef-d'œuvre de type ou de nana qui sont certainement complètement autistes, qui sont des malades mentaux, qui n'iront jamais voir un éditeur directement ou aller me donner leur manuscrit comme je le vois moi quand je fais les festivals où des gens ont le courage d'aller filer leur manuscrit à quelqu'un. Moi, je sais que à leur âge, j'aurais été incapable de donner le manuscrit à quelqu'un que je respectais ou j'aurais jamais osé, j'aurais eu l'impression de déranger. Jamais j'aurais fait ça. J'aurais envoyé par la poste, j'aurais prié. Voilà. Donc, et du coup, je pense qu'il y a plein de chefs-d'œuvre qui croupissent quelque part. Voilà. Et quand tu interroges les éditeurs, ils ont l'habitude de publier un certain nombre de choses. Pour eux, ce qui est de qualité, c'est, voilà, ils ont une image de ce qui est la qualité. Quand c'est original, complètement dingue, et que la personne est complètement inconnue, ils vont pas oser le faire. Tu vois, La Horde, ils pouvaient voir qu'il y avait des exploits stylistiques, ils pouvaient voir peut-être plein de choses déjà. Mais dire, il y a 23 narrateurs, le gars, mais pour qui il se prend, quoi? Il est sorti de nulle part. Il fait un livre à 23 narrateurs dans un univers de vent, avec comme support Deleuze, Nietzsche et Spinoza. Enfin, tu dis, ouais, n'importe quoi, quoi. Tu vois, non, mais t'y crois pas. Donc, c'est pour ça. Mais il n'y aurait pas eu Mathias. Je ne sais pas où serait le livre aujourd'hui. Voilà. Et l'histoire, c'est que Mathias, qui avait fait continuer sa carrière, qui travaillait à l'époque chez Editis et qui voulait depuis longtemps faire une maison d'édition, ben je lui dis à un moment donné, ben vas-y, fais-le. Je lui dis, si t'as envie d'éditer La Horde, c'est le moment peut-être, tu vois. Et il a décidé, il a dit, ok, allez, j'y vais.
Et ben, grand bien. Grand bien lui en
fait. Voilà, c'est un conte de fées, hein, de l'édition. Hein, c'est un conte de fées. Il met 30 000 euros sur le livre à l'époque, ce qui était énorme. Parce qu'on sort un livre avec un CD en
oui,
plus.
Parce
le livre était.
Faut expliquer aux gens que t'es zinzin aussi. Toi,
ouais,
dans ton
voilà.
Style,
en
hein.
Plus, on fait un CD avec, il est mis dans le rabat. Et du coup, le livre coûte 28 euros, ce qui est une absurdité. Donc, t'as un livre avec rabat, c'est beau, etc. 28 euros sur un auteur inconnu, sorti par un éditeur absolument inconnu, avec une ambition démesurée dans le texte. Voilà. Et ça sort, on a quelques bonnes critiques, mais évidemment, ça se vend modestement, tu vois. Et pendant très longtemps, ça s'est vendu tranquillement, et après, le bouche à oreille a fait comme ça. Voilà. Et c'est un livre qui a une histoire dingue, parce qu'il se vend de plus en plus chaque année. C'est-à-dire qu'il y a 7 ou 8 ans, on en vendait 10 000 exemplaires par an, puis après 15 000, puis après 20 000, et aujourd'hui, on est à 60 000 exemplaires par an, alors qu'il est sorti depuis 17 ans.
Ouais.
Tu vois. Donc il y a une espèce de... C'est devenu un long-seller, c'est devenu un livre de référence... culte, comme on dit, enfin en tout cas, et qui fait que ça se vend de plus en plus et que la nouvelle génération qui arrive, on lui dit, attends, lis ça. C'est vrai, c'est-à-dire que c'est un livre qui est extraordinairement recommandé. Donc c'est une histoire de fou, ouais. Et voilà, il faut partir de... faut se rappeler que ce livre a été refusé par absolument tout le monde et considéré comme prétentieux, comme...
La bouillie.
Comme une bouillie. Voilà, c'est une bouillie. Voilà, donc... mais c'est vraiment intéressant, ça fait réfléchir, hein, ça fait réfléchir à plein de choses, je trouve. Donc après, il faut rester modeste sur tout, quoi. Il faut rester modeste sur tout. C'est-à-dire que se dire aussi qu'après, quand t'as des succès sur d'autres livres et tout, te dire, Parce qu'il y a un capitalisme médiatique, c'est-à-dire que tu accumules la notoriété. Et après, moi aujourd'hui, je pourrais sortir une bouse, là, tu vois. Allez, je pourrais faire un livre en 3 mois, sortir une bouse. Ben, il ferait ses 100 000 exemplaires, tout simplement parce que derrière, il y a la horde et les furtifs. Et ça veut rien dire. Et ça veut rien dire. Ça ne dira rien de la qualité du livre que j'en vende 100 000. Rien, tu vois. Et en plus, je vais te dire mieux, je peux faire 3 bouses d'affilée et j'en vendrai quand même 100 000. Et au bout de la 3e bouse, les gens commenceront à réfléchir parce qu'ils auront... Mais ils auront toujours l'idée, attends, il va peut-être faire la horde, il va peut-être refaire les furtifs. Tu vois, regarde Houellebecq, il fait de la merde depuis combien d'années maintenant? Et ça continue à être lu, à être critiqué, alors qu'il fait le même livre depuis déjà 3 ou 4 livres, et que c'est de la bouse. Mais non, on se dit, ah, il va peut-être refaire Les Particules élémentaires, il va peut-être refaire, tu vois, La possibilité d'une île, ou je sais pas. Et c'est fou. Mais c'est génial pour les auteurs, c'est-à-dire qu'on te crédite, en tout cas... Ton crédit ne s'épuise pas en 2 secondes, contrairement à d'autres domaines où...
Oui, un film, voilà. Au cinéma, tu plantes un film, t'es...
Ouais,
c'est
tu peux, en tout cas, très, très... Mais après, si t'en as fait quelques-uns de bons, tu peux en planter quelques-uns. Voilà. Donc, c'est la chance qu'on a, artiste, c'est qu'à un moment donné, une fois que t'as atteint une certaine crédibilité, bon. Mais, c'est, en tout cas, le chiffre de vente ne signifie rien. Aujourd'hui, la zone du dehors qui s'est vendue 500 exemplaires, elle doit être à 200 000. Tu vois? C'est le même bouquin, hein. J'ai changé 3 virgules, en fait, franchement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, il n'est pas meilleur quand il est à 500 ou quand il est à 200 000. C'est juste de la notoriété, tu vois. Donc, tout ça, il faut que les gens, ils le sachent. Enfin, en tout cas, ceux qui écrivent, ils le sachent. Et qu'ils ne s'appuient pas sur... t'as des livres à 200 000 qui sont des merdes. T'as des livres à 200 000 qui sont des chefs-d'œuvre. T'as des livres à 500 qui sont des chefs-d'œuvre. Et t'as des livres à 500 qui sont des merdes. Ça ne veut rien dire, voilà. Tu peux pas en tirer de conclusion. Et c'est pas parce que t'es dans un marché de niche, en vendant 1 000, que t'es meilleur non plus qu'un mec qui en vend 100 000. C'est pas ça. Tu vois, faut arrêter aussi le snobisme de... Ouais. Mais tu peux pas tirer du chiffre des ventes quoi que ce soit, en tout cas, c'est sûr.
Avant qu'on parle des 15 ans qui t'ont séparé entre la sortie de La Horde et Les Furtifs, je voudrais te reparler de cette histoire de morceaux de musique avec Rhône, où en fait, si j'ai bien compris, Rhône a récupéré des cassettes que tu t'auto-enregistrais quand tu pars en autarcie, quoi. C'est limite de l'automotivation, j'ai l'impression, que t'es en train de te faire. Et je vous mettrai un lien dans les notes, parce que tu sais, dans les podcasts, tu peux mettre des liens comme ça, les gens peuvent écouter, etc. Y a un truc que tu dis très fort par rapport à ça. Et, alors, je ne sais pas exactement dans quel état d'esprit tu étais à l'époque, mais tu dis qu'en gros, écrire un chapitre, ça mérite de vivre, en fait. Ça te donne le mérite de vivre. Y a un truc jusqu'au boutiste chez toi que j'ai trouvé assez fascinant, qui m'a beaucoup moins parlé aussi. J'ai la sensation de, si j'apporte rien au monde, c'est de la merde, tu vois. À quoi ça sert de vivre?
Ouais, c'est vraiment, moi je trouve que c'est un enjeu, c'est marrant, ça vient de la biographie de Sartre, ça vient des mots de Sartre. Et à un moment donné, il le dit, il se dit, mais je suis un mec de plus dans l'histoire humaine, comment faire en sorte que je sois pas surnuméraire, que je sois pas superflu, voilà. Et ça guide toute sa vie, en fait, tu vois, cette idée de pas être superflu, de pas être le type de trop, quoi, tu vois. Il y a une notion vraiment de trop, tu vois, le type de trop, je sais pas d'où il sort ça, hein. Et il y avait, moi, ça m'avait vraiment marqué. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui justifie ta vie? Qu'est-ce qui fait que, voilà, t'es pas un Bloom et que tu vas essayer d'apporter quelque chose de... Et ce côté hyper prétentieux, en même temps hyper mégalomane, de dire, moi, avec ma petite singularité, je peux apporter quelque chose de plus. Et ça justifie que je sois là, quoi, tu vois, sur... Et ce moment-là qu'on entend dans ce morceau Bora Vocal, et ce qui est dingue, c'est que j'arrive toujours pas à savoir quel est le chapitre que j'ai lu et sur lequel je dis là, tu. Et je crois que c'est un chapitre de La Zone du Dehors.
Ah, ok.
Ouais.
T'étais pas dans l'écriture de.
J'étais dans l'écriture de La Horde. Okay. Et j'étais au début, je le sais parce que les noms qui sont dits dans la bande, Ertov, Strokny, etc., après il va s'appeler Sov. La goutte, il va s'appeler Golgoth. Donc je sais que c'est le tout début du livre. C'est-à-dire que j'ai pas fixé encore les noms. Donc que je suis avant 2001 ou au tout début de mon arrivée en Corse, je pense, quoi. C'est vraiment ça. Et je sais même pas si je suis pas encore dans le Vercors. Et donc c'était le moment où j'avais dû corriger La Zone du Dehors pour une réédition.
Ok.
Et donc je relisais La Zone chapitre par chapitre et je commentais chaque chapitre pour me rappeler au moment où j'allais reprendre carrément. Parce que en fait il y a un truc qu'on comprend pas quand t'es auteur, tu connais tellement tes chapitres, t'as tellement le nez dans le guidon, t'es tellement dans la boue. Que le seul moment où t'as un regard qui se rapproche de ce que le lecteur peut avoir, c'est quand tu le relis 3 ou 4 ans après. Et là, c'était le cas. Et quand tu fais ça, il y a un truc absolument précieux à faire, c'est que tu enregistres chaque sensation sur chaque chapitre pour bien te rappeler la sensation que t'as eue au moment, et donc recadrer le chapitre, parce que t'as une approche symphonique à ce moment-là. Hein. C'est plus une approche dans le détail, c'est plus le rythme global du chapitre que tu vas modifier pour trouver une densité, pour éviter les temps faits. Donc c'est extrêmement important ce que tu dis. Donc je faisais comme ça, je lisais un chapitre, généralement pas plus d'un chapitre par jour parce que faut être ultra concentré quand tu le fais, et je commentais. Et là, je pense que c'est le chapitre 14 ou 15 de la zone que je trouve un chapitre très très bien équilibré entre action et réflexion politique. Et quand je l'ai relu, des fois t'as cet effet-là, des fois tu dis non mais ça va pas, c'est lourdo, c'est, et des fois tu fais ah c'est génial, c'est exactement ce que je voulais faire, c'est le, et t'as une espèce de bonheur à relire le truc, même des fois tu t'impressionnes tout seul, hein, parce que des fois c'est flippant parce que tu relis le chapitre et tu dis jamais je referai un truc aussi bien, ouais. Et bon voilà. Comme un mec qui court 100 mètres en 9,73 et qui se dit jamais je n'arriverai, bon. Et là je pense que c'est ça, voilà.
C'est ouf cette.
Mais c'est ouf. Et à ce moment-là, et je le prends comme point d'appui en me disant c'est exactement ça que je dois faire pour l'avoir. Je dois réussir à être à ce niveau-là. Sinon, ça sert à rien. Sinon, c'est pas la peine que je prenne 3 ans en Corse, à 10 mois par an tout seul, 20 jours par mois, honnêtement, un ascétisme hallucinant. Hein, c'est vraiment, c'était ultra monacal, hein, l'écriture de la Horde. Ce qui fait que la Horde restera un livre unique et que j'arriverai jamais, je pense, à refaire la même chose. Parce qu'il faudrait que j'ai plus de femmes, plus d'enfants et que je retrouve ces conditions de solitude. Mais là, j'avais des conditions dingo, de concentration, d'immersion, avec beaucoup de souffrance aussi. Hein, c'était dur, hein, effectivement, sexuellement. J'étais beaucoup dans le manque, mais j'étais dans le livre, quoi.
Ouais.
Ah ouais, j'étais dans le livre. Voilà, c'est un livre dont tu sens qu'il y a aucune tricherie, quoi. C'est un livre. Je pense que le succès de ce livre, il est lié. On peut dire plein de choses, plein d'ambitions, de ce que tu veux. Mais en vrai, moi, je te dis en vrai ce que j'en pense, c'est que il y a un degré de vérité, d'immersion, d'implication dans ce bouquin qui est exceptionnel. Voilà. C'est le livre sans aucune espèce de tricherie, de facilité. J'y suis allé, tu vois. Et c'est le vrai livre 100%. C'est-à-dire, c'est le livre où j'étais au bout de ce que je pouvais. Je pouvais pas faire un gramme de plus au moment où je l'écris, tu vois. Moi, La Folie Furtive, je sais que c'est pas un livre 100%. Tu vois, paradoxalement.
Okay.
Alors, je compense par l'expérience, mais le fait d'avoir ma vie de famille, le fait de voilà, il me manque quelques pourcents, tu vois, qui ferait que à des moments ça serait vraiment donc pour moi c'est un livre à 95 96 97% Les Furtifs, mais c'est pas le aller vraiment au bout de ce que tu peux et tu le sens, tu le sais ça, hein, tu le sais, ça te fait chier d'ailleurs à des moments, tu sais que ça aurait pu être mieux, tel ou tel chapitre, tu sais que
ça me parle.
Ouais,
je comprends.
Non vraiment, je sais ce que je referais aujourd'hui, mais ouais.
Parlons de paternité, si tu veux bien, parce que je t'ai entendu à quelques reprises dans les médias essayer de parler de paternité. Donc, tu as 2 filles aujourd'hui qui...
Tout le monde s'en fout.
Tout le monde s'en fout, mais bien sûr, tout le monde s'en fout. Les gens veulent te faire parler de tes livres, et heureusement, très cool. Mais en fait, moi, j'ai envie de te faire parler de paternité. Donc, je te disais juste avant, j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de Daron, où je vais parler des pères, tu vois, de paternité. Faisons un petit segment, si tu veux bien, parce que... Donc, tu as 2 filles aujourd'hui qui ont 17-13,
ouais,
c'est ça. J'aimerais bien t'entendre parler de comment t'en es venu, toi, à vouloir devenir père. C'est l'une des questions que je pose, tu vois, à tous mes invités.
C'est c'est la rencontre déjà de ma femme. C'est-à-dire que je fais cette rencontre, j'ai 35 ans quand même, c'est assez c'est tard. À un moment donné où, franchement, ma vie sentimentale, c'était comme pour beaucoup de gens, j'avais un copain qui m'avait dit « Ta vie sentimentale est une vie de merde jusqu'à temps que tu trouves la bonne personne. » Et il me dit « C'est principiel, c'est comme ça. » Et c'était ça. Donc, j'avais à part mon expérience de 5 ans avec la metteur en scène. Et du coup, je rencontre Sophie, donc ma femme. On se rencontre dans le désert algérien, en plus, sur un moment. Et à un moment où j'étais en dessous de tout, moi, j'étais vraiment pas bien mentalement, effectivement. Et bon, ça se met à coller assez vite. Et elle avait 2 ans de moins que moi. Et j'avais déjà pas envie de la faire lanterner. C'est-à-dire que elle n'exprimait pas vraiment le besoin d'avoir un enfant, etc. Mais dans tous les cas, je voulais pas jouer avec ça. Et je voulais me mettre face au défi. Et en fait, c'est moi qui lui ai demandé d'avoir des enfants.
Okay.
C'est moi qui lui ai dit, voilà, au bout de 2 ans, quoi, tu sens vite, c'est vrai, c'est quand on disait, tu sens beaucoup plus vite. Et je sentais que ça le ferait, quoi. Et sous un pommier, c'est assez marrant, je lui ai demandé si elle voulait, quoi. Et puis elle m'a dit, ok. Alors qu'elle avait refusé de faire des enfants pendant plein d'années, hein, là, jusqu'à l'âge de 32, 33 ans, là, on voulait absolument pas entendre parler de ça. Et on y allait, quoi. Donc, on a eu de la chance, ça s'est fait vite. Et donc on les a eu très vite, hein, après 2 ans ensemble, on les a eu. Et du coup, ouais, c'est une expérience fabuleuse. Enfin, moi, pour moi, c'est la plus belle histoire d'amour de ma vie, en fait, hein, très simplement, pour dire les choses très simplement. C'est la plus belle histoire d'amour réciproque de ma vie. Enfin, c'est d'une richesse incroyable. La plus belle chose qu'on puisse en dire, c'est que ça te redonne à un moment où moi j'avais 40 ans, etc. C'est comme si tu repartais de la naissance, toi, et que tu refaisais toute ton enfance de 0 à 10 ans. C'est avec le miracle des premières fois, de toutes les premières fois. Et que tu le vis parce que tu as une empathie absolument prodigieuse. En tout cas, moi, j'ai cette empathie avec mes enfants, avec mes filles. Tu vis à travers elles tous les... Et c'est génial. C'est-à-dire, tu vis la neige la première fois, tu vis la luge la première fois, tu vis le ski la première fois, tu vis de voir des poissons dans l'eau la première fois en mettant un masque, tu revis tout. Tu refais du toboggan, tu te réapprends à courir, tu te tiens une raquette, à lancer un frisbee, tout, et première fois. Et ça, c'est génial. Voilà, c'est... Donc, ça, je sais pas, il y a un ressourcement déjà absolument prodigieux. Et puis ouais, l'intensité du rapport, enfin l'intensité incroyable. Moi, je suis très câlin, je suis quelqu'un de très très tendre. Il y a une puissance de restitution, de bonheur. Donc ouais, moi c'est une période ultra heureuse hein, depuis voilà. Et là, elles ont 13 ans, les 13 dernières années sont une magnifique période parce que voilà, c'est vrai qu'on forme vraiment une belle famille quoi. Ça fonctionne, on est bien tous les quatre ensemble et c'est très marrant parce que j'ai deux filles donc une femme donc je suis seul garçon. Ça aurait pu être au début si tu m'avais demandé j'aurais voulu un garçon et une fille et en fait je suis ravi d'avoir eu deux filles et si je devais le refaire je demanderais deux filles au sens où ça donne une espèce d'équilibre. Moi ça a développé beaucoup plus mon champ féminin aussi, je pense que ça m'a équilibré, ça m'a fait sortir du virilisme aussi que j'avais hérité de mon père, ça m'a ouvert plein de choses. Donc, ça m'a énormément équilibré par rapport à ça. C'est voilà, et puis c'est une joie, ouais, c'est une joie énorme. Ouais, je sais pas comment en dire. C'est dur à raconter, mais voilà. Ouais.
C'est étonnant que tu sèches un peu là-dessus, parce que t'es tellement lyrique d'habitude sur tous les autres
sujets. Ouais, mais parce que c'est très émotionnel, c'est très proche. Tu le comprends quand tu es furtif, je pense. Il y a des scènes qui sont totalement biographiques, des scènes très simples. Enfin, par exemple, moi, un truc qui me met l'air aux yeux encore aujourd'hui, c'est que tu vis plus la ville de la même façon. C'est-à-dire que un plot, ça devient un endroit où sauter, ça devient, un guet que tu vas traverser parce que tu sautes de plot en plot. Une rampe, ça devient un toboggan. C'est-à-dire que ça réenchante absolument tout, quoi. La ville, tu vois qu'un tas de béton, c'est chiant quand t'es adulte. C'est qu'un système d'oppression. Et avec les gosses, tout est réinventé. C'est-à-dire qu'ils le voient avec l'enchantement. Et tu peux délirer, que moi, je suis assez créatif, assez imaginatif. On part tout de suite dans des histoires, on fait des choses. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça te redonne une lumière sur toutes les choses que tu avais perdues. Donc, et je ne l'aurais jamais trouvé si je n'avais pas eu d'enfant. Enfin, je n'aurais jamais retrouvé ça. Tu ne peux pas délirer tout seul. Quoi. C'est pas, ouais.
Et d'un autre côté, tu disais que ça t'avait peut-être enlevé quelques pourcents de ton bouquin.
Non, mais bien sûr. Mais après, tu vois, tu sais, à un moment donné, soit t'es Nietzschéen complètement et t'es dans une solitude absolue et tu vas dans l'absolu de la création artistique. Et là, honnêtement, t'as pas besoin d'avoir d'enfants et plus t'es seul, mieux c'est. Soit tu te dis, bah j'ai qu'une vie et j'ai envie d'être un grand artiste, j'ai envie de faire le plus beau, de toucher le plus beau, le plus haut que ce que je puisse faire. Mais en même temps, je sais que j'ai qu'une vie. Et j'ai envie d'être heureux aussi. Et le temps que je passe avec mes filles, avec ma femme, c'est un temps qui est magnifique. Donc je veux pas non plus sacrifier. Et tant pis si je perds quelques pourcents. Tant pis si les furtifs sont pas le livre absolu que j'aurais voulu qu'ils puissent être. J'accepte de perdre ces pourcentages-là, même si voilà, c'est ces pourcentages qui peut-être empêchent le livre d'ensuite de rester vraiment dans l'histoire de la littérature comme un livre décisif. Tu vois, tu sais que c'est comme au théâtre, tu vois, c'est ces quelques pourcents qui font que tout d'un coup tu bascules dans quelque chose qui est au-delà d'une interprétation, qui te fait descendre dans le réel du personnage. Mais tant pis, ouais. Et il faut faire le choix à un moment.
C'est un truc qui a évolué chez toi entre tes 30 et tes 40 ans.
Ouais. La Horde, j'aurais jamais dit ça à ce moment-là. Ouais. J'aurais jamais accepté ça, même au moment de la Horde. Même sur la zone, j'étais vraiment au fond, au bout, je lâchais rien, quoi. Donc, non, j'aurais pas dit ça à cette époque-là. J'avais une vision absolue, hein. J'étais très, très Nietzschéen, ouais, carrément. Ouais. Mais là, tu changes, ouais. Tu t'ouvres un peu.
Est-ce que Je me demandais un peu comment tu faisais pour... parce que donc, moi, j'ai aussi deux ados, hein, tu vois, qui ont 15 et 13, deux filles. Et ma grande guerre en ce moment avec elles, c'est le téléphone. Et c'est ma faute, hein, tu vois, je leur ai filé à un moment donné un téléphone en leur disant « C'est génial, vous allez voir à quel point ça peut vous ouvrir des univers, etc. » Parce que moi, j'ai découvert Internet en 95, j'avais 17 ans, tu vois. Ça m'a ouvert le monde, un truc de ma boule, quoi. Et aujourd'hui, je les vois dans leur téléphone. Et en fait, c'est ma grande bataille. C'est qu'en fait, elles sont en train de bouffer du TikTok toute la journée, etc. J'essaie de les cadrer le mieux possible, mais c'est très compliqué. Je me demandais d'ailleurs, parce que si j'ai bien compris, la nouvelle que tu sors, la Scarlett et Novak, qui est a priori plutôt destinée aux ados.
Ouais, ouais, là-dessus, d'ailleurs, vraiment sur l'addiction au smartphone. Ouais.
Tu veux aller leur parler aux gamins?
Moi, quand on m'a parlé de littérature jeunesse, bon, t'as le choix soit de faire un récit, des divertissements, comme il y en a des milliers. Mais moi, ça m'emmerde au sens où t'es obligé de réduire le spectre stylistique et. Et donc j'ai accepté de faire une nouvelle jeunesse parce que il y avait la dimension un peu subversion, en tout cas la dimension de réflexion et une dimension politique que tu peux amener à un âge où c'est vraiment important. Je pense que ils commencent à prendre conscience de certaines choses. Donc je suis très content de sortir un texte politique pour les ados, vraiment, et pas un texte politique qui défende. Parce que ce qu'on appelle les textes politiques pour les ados, c'est généralement c'est les questions de genre, c'est le racisme, c'est questions un peu pour moi un peu banales. Mais là d'aller les chercher sur un domaine où ils croient toucher l'acmé de la liberté. Parce que pour eux, quand t'es ado, tu commences à toucher à ces trucs, que t'as accès à toutes les musiques, tous les films, toutes les vidéos, etc. Pour toi, c'est vraiment la liberté. Et ça l'est, hein, en partie, quoi, tu vois. Et de leur dire, bah, derrière cette liberté, il y a aussi un système d'addiction et un système de dépendance qui est très fort, quoi.
Il nous reste 5 minutes.
Et du coup, même si c'est désagréable, d'introduire cette distance, de dire attention et de dire essayez de vous construire en maximisant la part de libération que vous donnent ces outils et en minimisant la part de servitude. Et c'est très compliqué à faire. C'est un art de vivre avec la techno que personne n'enseigne, sur lequel il n'y a pas d'éducation aujourd'hui et qui manque. D'ailleurs.
L'école commence un peu à...
Ouais, mais un tout petit peu, mais si on est encore très loin. Mais il faudrait vraiment être capable d'éduquer. Moi-même, pour l'instant, je rame aussi avec mes filles, même si on ne leur a pas donné les smartphones.
Ouais.
On a quand même la tablette, on a quand même... Bon. Et on contrôle ça très, très, très férocement avec ma femme. Mais c'est très compliqué, justement, de sentir, même par rapport à tes gosses, à quel moment ce qu'ils font sur la tablette leur ouvre la tête, leur apprend des choses, leur développe des capacités cognitives, de spatialisation dans les jeux, d'imagination, de compréhension, etc. Et à quel moment ils sont en train d'être dans des boucles dopaminiques, tu vois, de rétribution.
De like, de machin.
De like, etc. Et qui sont sur la tablette par fatigue, tu vois. Donc moi j'essaye d'éviter le moment où ils vont sur la tablette par fatigue, parce qu'ils sont crevés, parce qu'ils s'ennuient, parce que je sais que quand il va là-dessus, parce que c'est pareil pour moi, tu vas pour des mauvaises raisons et tu vas développer ces circuits de rétribution liés à la dopamine qui sont en fait hyper néfastes et qui créent l'addiction. Donc, mais c'est compliqué, c'est pas si simple, c'est pas de dire j'interdis la tablette ou j'interdis le smartphone, c'est trouver à quel moment c'est judicieux de leur laisser. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris l'habitude, ils nous demandent à chaque fois. Donc il y a la demande et selon le feeling que j'ai sur ma fille, je me dis ok, c'est bien, et sinon non, c'est pas le bon moment. Parfois je l'accepte pour la fatigue même, parce que je sais qu'elle a une grosse journée, parce que elle a besoin de se délasser et que c'est bien qu'elle regarde un dessin animé, il y a pas de problème avec ça, tu vois.
C'est pas jusqu'au boutiste non plus.
Non, il faut être, pour moi ça sert à rien, enfin il faut vraiment être, justement il faut être souple et intelligent, ça c'est l'évidence. Mais on a une éducation au numérique à faire qui n'est pas faite, et comme on a une éducation aux jeux vidéo à faire qui n'est pas faite, et c'est notre boulot de parents de l'endosser, et en espérant que bientôt des assos, il y a quelques assos qui font ça, etc. Mais il faut leur apprendre le réseau, il faut leur apprendre Internet, il faut leur apprendre Wikipédia, il faut leur apprendre Instagram, il faut leur apprendre Twitter, il faut leur apprendre Facebook, leur expliquer à chaque fois quel type d'algorithme il y a derrière, que là, t'es sur un algorithme de clash, là, c'est sur un algorithme d'affinité, de communauté affine, là, t'es sur un algorithme de valorisation de toi... Tu vois, de comprendre un peu comment chaque appli porte son et de dire, bah voilà, une fois maintenant que tu sais ça, tu fais ce que tu veux, tu utilises ce que tu veux, mais sois conscient que... Donc c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué.
Tu te bats avec elle pour le smartphone, par exemple, parce que j'imagine qu'à 13 ans,
bien sûr,
ça commence à venir.
Alors, bon, elle a compris, et puis on est les deux parents qui font bloc là-dessus. Mais voilà, elle est en quatrième, la grande, et ils sont deux dans la classe à ne pas avoir de smartphone. Donc on lui a dit, ce sera la seconde. Voilà. Donc de temps en temps, elle prend celui de sa mère, elle envoie 2-3 messages. Donc on laisse un peu cette latitude, mais on veut pas qu'elle ait cet objet qui est vraiment l'objet transitionnel de fondamental. Donc Je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Je trouve que c'est très pervers, en fait. C'est très, très pervers. C'est-à-dire que ta construction de soi va passer par le smartphone et moi, je veux qu'elle passe par ses rapports à ses copines, par le rapport à la nature, par le rapport à la lecture, etc. Mais donc, c'est chaud, ouais. Très chaud. Très compliqué. Et on fait pas, enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression de faire beaucoup mieux que voilà, j'essaie de faire
Déjà, tu vis sans smartphone, si j'ai bien compris.
Oui, moi, je vis sans smartphone, ouais. Et tu sais, moi, je suis vraiment, c'est comme Jaurès, il disait, voilà, on n'enseigne pas ce qu'on sait, on enseigne ce qu'on est. Ouais. Je trouve que c'est la plus grosse leçon à retenir quand tu parlais des darons, qu'est-ce que ça veut dire être daron. En réalité, ce que tu transmets, c'est ce que tu fais et ce que tu es. C'est pas ce que tu dis et pas ce que tu sais. Voilà. Donc, moi, j'essaie d'enseigner juste par, voilà. Donc, elle voit que j'ai pas smartphone, que je les manipule pas, etc. Et que quand je suis avec des gens, etc., voilà, je suis entièrement disponible à eux. Par contre, elle me voit devant l'écran, à bosser toute la journée, ou être devant l'écran toute la journée. Donc, bah, je lui transmets ça, que je le veuille ou non. Ouais. Tu vois, donc après, quand je lui dis, mais arrête d'être devant l'écran, quelle légitimité j'ai, quel poids j'ai, alors qu'elle m'a vu toute la journée devant l'iMac, tu vois. Donc, c'est pour ça, à un moment donné, donc, j'essaye de faire ça. Pareil sur les rapports sociaux, montrer une grande fluidité sociale. Et là-dessus, c'est bien passé. C'est compliqué. C'est dur, mais bon, on a de la chance. Puis moi, c'est vrai que c'est des gamines qui sont assez cool, qui ont une bonne écoute. Alors, est-ce qu'on a transmis ça naturellement? Est-ce que ça vient de ma femme? Est-ce que c'est... J'en sais rien, mais on a de la chance que pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, pour l'instant.
Bon, Alain, notre temps imparti est terminé. Je suis désolé, mais j'avais tellement de trucs à te raconter, mais on fera une prochaine fois pour la sortie de ton prochain livre. Un grand merci à toi, en tout cas, pour ta disponibilité et puis pour m'avoir raconté toute ton histoire, quoi.
C'est cool. Ouais, c'est ouf.
Un bout de ton histoire, parce que vraiment,
il y a tellement de choses.
Un grand merci à toi, c'était cool. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.